autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Nicolas Benita à la réalisation pour changer radicalement de regard et de perspective sur le vivant. Accrochez-vous, chers amis auditeurs, car il va falloir lâcher toutes nos certitudes, à commencer par celle d'une frontière définie entre le vivant et le non-vivant, frontière qui, au fil des recherches et des découvertes, se révèle de plus en plus floue. Qu'est-ce que la vie ? À cette question fondamentale, il n'y a plus vraiment de réponse et encore moins de consensus. La vie doit-elle forcément reposer sur de l'ADN, de l'eau et du carbone ? Ou est-elle bien plus que cela ? Peut-on vraiment la définir ? D'où vient-elle et jusqu'où nous entraînera-t-elle ? Autant de questions soulevées par notre invité, Thomas Hims, chercheur à l'INRA et grand empêcheur de penser en rond dans un ouvrage qui chamboule tout, intitulé « Infravie, le vivant sans frontières ». Autour de la question « Jusqu'où va la vie ?», bienvenue pour tout remettre à plat, à commencer par la définition même de la vie biologique, telle que nous le rappelait ici même le professeur Alain Prochian, c'était hier, du Collège de France.
C'est vivant à partir du moment où ça peut se reproduire, et puis au moment où ça peut évoluer, c'est-à-dire où ça a une évolution dans le temps, où les espèces évoluent. Donc pour moi, c'est la définition du vivant. On peut s'interroger sur les origines du vivant, sur comment les matières organiques vont s'assembler pour faire quelque chose qui est du proto-vivant, ou aller chercher des matières organiques dans les espaces interstellaires. Je pense qu'il ne faut pas être sectaire, mais pour un biologiste, c'est quand même la définition que je vous ai donnée qui fonctionne.
Bonjour Thomas Hims.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et merci d'être en direct avec nous pour tout remettre en question, à commencer par la définition même de la vie, telle qu'on vient de l'entendre dans la voix du professeur Alain Prochian. Vous n'avez décidément peur de rien et surtout pas de secouer le cocotier pour élargir notre horizon à un incroyable bestiaire d'infravie. Infravie, le vivant sans frontières, c'est le titre de cet essai particulièrement original et inspirant que vous venez de publier, Thomas, aux éditions du Seuil, et dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs à l'esprit aussi libre et ouvert que vous, Thomas Hims. Vous êtes chercheur à l'INRA, maître de conférences en génomique animale à AgroParisTech. Vous enseignez les biotechnologies et l'histoire des idées scientifiques. C'est pour faire avancer les idées et les mentalités, justement, pour ouvrir les fenêtres et nos yeux sur cette incroyable diversité foisonnante du vivant que vous avez décidé d'écrire cet essai qu'on peut qualifier de révolutionnaire.
C'est gentil. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, pour tenter de le faire, ça part d'une démarche personnelle qui a consisté à remarquer que au sein de la communauté des biologistes, aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y avait pas de définition consensuelle de ce que pouvait être la vie, alors que c'est notre objet de travail à tous. Donc Alain Prochian a donné une définition qui fonctionne dans un nombre incroyable de cas.
Une définition biologique,
voilà, mais... Alors oui, évidemment, il faut dire qu'on parle de la vie biologique, on ne va pas parler de la vie psychique, de la vie intérieure, de la vie morale qu'on peut avoir.
On va pas se contenter du vivant, mais il n'y a pas de consensus là-dessus.
Mais même sur ce qu'est la vie biologique, par exemple la définition d'Alain Prochian, qui est très largement fondée, évidemment, elle marche aussi sur des entités qu'on ne considérerait pas de manière canonique comme vivantes. Par exemple, la plupart des virus... Les mêmes auteurs qui souvent disent que les virus ne sont pas vivants utilisent cette définition de la vie qui pourtant est un peu problématique parce que les virus se reproduisent et évoluent. On peut être un généticien des populations et travailler toute sa vie sur les virus en utilisant les lois de la sélection naturelle. On sera un très bon biologiste et pourtant, par exemple, les virus... On considère souvent qu'ils n'ont pas de métabolisme, par exemple, ils n'ont pas une activité métabolique.
Donc vivant ou pas vivant, les virus, pourtant, ils rentrent aujourd'hui dans la grande, l'immense catégorie du vivant.
Alors, ils sont un produit du monde vivant, ça c'est indéniable. Ils ne sortent pas de manière spontanée de la matière minérale, ils sont un produit du vivant, mais ils sont généralement considérés comme des marges du vivant. Alors, je m'empresse de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, parce que justement, à la suite d'autres auteurs spécialistes des virus, on peut remarquer que cette manière d'être qu'ont les virus, elle est très temporaire, au sens où ils ont cette forme, mais après ils peuvent aussi rentrer dans les cellules, se reproduire à l'intérieur des cellules et détourner complètement la machinerie cellulaire. Et on a, de sorte qu'il est complètement impossible de savoir si ce qu'on a sous les yeux, c'est une cellule ou un gros virus en train de se reproduire.
Au fond, c'est des aides, des entités hybrides. C'est un bestiaire incroyable, fantastique vous appelez infravie.
Alors, ce que j'ai appelé les infravies dans ce livre, c'est la deuxième raison. Enfin, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis venu sur cette enquête, c'est que j'ai découvert ou redécouvert toute une série d'entités qui est assez hétéroclite par ailleurs, toute une série d'entités qui semblent être aux marges de la vie. Alors il y a les virus, on en reparlera parce que il y a beaucoup de choses à en dire et c'est pas une nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les virus évidemment depuis fort longtemps. Il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de nos cellules des organites cellulaires qui sont des anciennes bactéries et qui cohabitent à l'intérieur de notre cellule. Et puis il y a même des cellules qui vivent à l'intérieur de cellules et qui sont là derrière sur la couverture du livre et pour lesquelles on sait plus trop bien dire si elles sont vivantes ou pas. Et du coup, c'est un problème souvent pour les biologistes. Et moi, je me suis dit à un moment que c'était peut-être la solution, que c'était pas un problème, parce que ça pose un problème quand on veut tracer des frontières entre.
Quand on veut faire des catégories, exactement. Mais que finalement, pour repenser aujourd'hui à l'heure de la biologie de synthèse, à l'heure où l'on parle, on y viendra, des machines vivantes ou intelligentes, peut-être que pour non pas résoudre ces questions, mais affronter tous ces problèmes, il faut élargir les bases du vivant.
C'est la proposition à laquelle je viens, c'est-à-dire de se dire puisqu'on constate qu'on a énormément de mal à faire une frontière claire et floue entre le club des vivants, dans lequel on serait, nous, les bactéries, les chats et les séquoias, et puis le reste, les plantes, évidemment, et les champignons, enfin tout ce qu'on considère canoniquement comme vivant, et puis tout le reste des objets de l'univers, puisqu'on a tant de mal, c'est peut-être qu'il est objectivement illusoire d'y parvenir. Et donc je propose une vision beaucoup plus continue, du vivant, un continuum qui en fait élargit en fait le périmètre de ce qu'on appelle la vie. Donc j'ai appelé ça les infravies. En fait, c'est un élargissement du périmètre en disant ce qui est original dans le vivant, et c'est ça qui nous intéresse, nous les biologistes, de caractériser cette originalité. En fait, pour moi, c'est la mise en mouvement adaptative de la matière.
On va y venir à votre définition du vivant, parce qu'à cette immense et lancinante question, qu'est-ce que la vie, il n'y a pas vraiment, on l'a dit aujourd'hui, ni de réponse ni de consensus. C'est une très vieille question que se posent depuis toujours les philosophes, les naturalistes, les biologistes, et que se pose aussi une généticienne qui était récemment notre invitée. Elle s'appelle Evelyne Heyer, elle est professeure d'anthropologie génétique au Muséum et elle a une question pour vous.
Question très naïve, je croyais qu'on définissait le vivant comme quelque chose capable de se reproduire. Et donc ces infravies, elles arrivent à se reproduire ou pas ?
Votre réponse, Thomas Himes.
Alors, certaines d'entre elles y parviennent très bien, et puis certaines d'entre elles n'y parviennent pas du tout. En tout cas, ça pose toujours la question autour de la reproduction, de l'autonomie de la reproduction. Il faut juste éclaircir ça.
Normalement, le vivant peut se reproduire.
On dit souvent, par exemple, qu'une cellule est bien vivante parce qu'elle peut se reproduire de manière autonome. Alors qu'un virus, il n'est pas vivant parce qu'il se reproduit, certes, ce qui peut poser un problème à la définition qui vient d'être proposée, mais assisté par l'existence de cellules dans lesquelles il va puiser les ressources pour se reproduire. Sauf que ça dessine un monde un peu illusoire où finalement les cellules et les êtres vivants seraient autonomes. En fait, l'autonomie n'existe pas dans le monde vivant. On est tous dépendants de quelque chose pour se reproduire.
Interconnectés.
Donc cette question de la reproduction autonome, elle est très utile. Il faut bien le reconnaître. Elle peut permettre d'avancer largement,
mais elle suffit pas.
En dernière limite, à mon avis, elle ne suffit pas.
Et donc j'en reviens alors à votre définition.
Et par ailleurs, si je peux me permettre, il y a des cristaux qui peuvent croître et se reproduire aussi. Et ceux-là, ils sont pas.
Les cristaux sont pas vivants.
On les considère généralement pas comme vivants. Donc,
vous élargiriez
Non, mais je pense qu'il y a certaines manifestations infravivantes dans les cristaux. C'est-à-dire qu'on peut par exemple admettre, et c'est un exemple assez parlant, les cristaux, ils ne sont pas là de toute éternité. Ils sont apparus à un certain moment, ils continuent à apparaître et à croître. Bon. Donc ils peuvent croître. Quand ils sont très gros, ils peuvent casser. Donc ils peuvent se diviser. Si jamais il y a du matériel qui est un peu différent du matériel habituel, ils peuvent un peu muter et fabriquer une nouvelle manière d'être un cristal, une nouvelle manière de croître. Et donc ils embarquent une forme de croissance, une forme d'hérédité, une forme de capacité à se répandre et à se dupliquer. Si j'avais pas dit que je parlais des cristaux juste avant, peut-être que certains de mes collègues auraient dit du coup ce dont on est en train de parler est assurément vivant. Or je suis en train de parler de cailloux.
Les cailloux sont vivants, enfin presque. Ça pourrait être des infravies ou en tout cas ça permet d'élargir notre horizon. Et du coup j'ai envie de d'en revenir sur votre définition à vous du vivant. Alors c'est quoi? Rappelez-la nous.
Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'originalité de ce qui est vivant, mais qui pourrait être vivant ici sur Terre ou partout ailleurs dans l'univers, et puis à des échelles peut-être complètement différentes, c'est une certaine manière dont la matière se met en mouvement, et c'est une mise en mouvement adaptative de la matière. Et quand il y a le mot adaptation qui vient, en fait, pour un biologiste, il y a l'adaptation, il y a la sélection naturelle, et il y a les mécanismes darwiniens qui sont derrière.
Donc pour vous, ce qui est vivant, c'est la mise en mouvement adaptative de la matière. Voilà, une matière, enfin, d'inerte au vivant...
Il ne s'agit pas juste de se mettre à remuer, il s'agit de s'adapter, d'assurer une certaine forme de permanence dynamique avec son environnement, de résister à l'anéantissement par l'adaptation. Et ça, à mon avis, c'est l'originalité du monde infravivant. Et à l'intérieur de ce monde-là, ce que nous, on appelle la vie, c'est une certaine déclinaison locale, par exemple terrestre, de cette capacité. Et déclinaison locale, ça veut dire avec un certain type de molécules, par exemple l'ADN, par exemple les lipides, les protéines et les sucres. Un certain type d'organisation, par exemple les cellules, un certain type de solvant, par exemple l'eau. Mais ça, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit d'autres molécules, d'autres structures qui prennent cette mise en mouvement adaptatif de la matière en charge sur d'autres planètes ou à d'autres échelles.
Alors on va y venir, hein, ça ouvre des perspectives incroyables pour justement rechercher de la vie, qu'est-ce qu'on cherche ailleurs.
Exactement.
Mais également pour étudier et découvrir la vie dans les océans. Enfin, on essaie de découvrir une biodiversité insensée, même dans des zones où on ne le pensait pas possible. Et puis ça nous amène, on va y venir aussi, à la question des machines. C'est-à-dire, par contre, est-ce que des machines, ça peut rentrer dans votre définition, mise en mouvement adaptative de la matière
justement.
Et voilà, là justement, il y aurait peut-être, là où les frontières sont moins floues, ce serait entre les vivants et les machines.
Contrairement à une grande tradition sur laquelle on est assis, qui est celle du vivant-machine, qu'on a hérité de Descartes et qui est très importante pour nous, pour le pire et pour le meilleur, mais qui est très importante, y compris pour la recherche. Donc oui, pour moi, il y a une grosse différence entre le vivant et les machines. D'ailleurs, au passage, on peut dire que certaines photocopieuses, certaines imprimantes 3D seraient peut-être capables de faire d'autres imprimantes 3D, donc on pourrait avoir des structures
qui se reproduisent,
et pourtant personne ne considérerait vraiment...
Elles ne sont pas vivantes.
Ces imprimantes 3D sont vivantes, donc ça montre les limites de cet axe de définition. Mais je pense que justement, il y a des points communs entre le vivant et les machines, évidemment. On est habitué à en voir, mais il y a aussi beaucoup de points de divergence qui me paraissent très importants. La fragilité, les flux...
La fragilité, c'est du côté du vivant.
La fragilité, c'est du côté du vivant. Et c'est très important pour le vivant d'avoir une dimension de fragilité. Or, pour les machines, c'est exactement ce qu'on veut qu'elles ne soient pas. On veut qu'elles soient pérennes, enfin, sauf quand on veut faire de l'obsolescence programmée. Mais ça, c'est un autre problème. Mais quand on veut quand on fait des machines, c'est qu'on veut qu'elles aient des mouvements répétables, prévisibles à l'avance. Elles sont une forme d'idéalisation de ce qu'on a dans notre cerveau, de structures qui marchent bien. Mais par contre, on a voulu caler le fonctionnement de notre compréhension du fonctionnement des vivants sur ce fonctionnement machinistique, alors que quand on regarde l'intérieur des cellules, ça a été mon travail de thèse il y a quelques années, on s'aperçoit qu'elles sont régies par beaucoup de désordre, par exemple.
L'ordre, c'est pas tant que ça dans le vivant, le désordre,
le
hasard.
Il y a des formes d'ordre, il faut pas se le cacher. Le rôle des biologistes, c'est d'expliquer pourquoi des humains se ressemblent, pourquoi des cellules se ressemblent. Il faut pas se le cacher. Mais n'est pas assis sur un ordre élémentaire. C'est assis sur beaucoup de désordre. Il y a beaucoup d'imprévisibilité dans le fonctionnement des gènes, par exemple. Quand on regarde deux cellules qui ont exactement les mêmes gènes et qui sont exactement dans le même environnement, elles vont pas les utiliser tout à fait de la même manière. Ça, on a pu observer.
Donc le vivant...
Il y a de nombreuses années maintenant, oui.
C'est la mise en mouvement adaptative de la matière, c'est fragile...
C'est de la fragilité.
Et le désordre.
C'est du désordre et c'est aussi du collectif. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas de vie sans vie. Ça, c'est un paradoxe autour duquel on tourne. Quand on veut définir un objet, on a besoin de pas le définir par lui-même. C'est un principe dans les définitions. Mais un vivant n'existe que parce qu'il a des vivants autour de lui, soit ses congénères, parce qu'il est un être social, soit sa nourriture, parce que les vivants se nourrissent de vivants et sont les proies d'autres vivants. Donc on est pris dans des réseaux qui sont très nombreux. Il y a évidemment toute la question des symbioses qu'on redécouvre quand on parle aujourd'hui quand on parle aujourd'hui de toutes les bactéries qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes,
notre microbiote.
C'est à ça à quoi je fais référence. Donc,
on n'est pas tout seul à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est jamais seul. Autour de la question jusqu'où va la vie, je propose justement un autre regard vu d'ailleurs. d'ailleurs vu de Franceville au Gabon, c'est celui du chercheur Éric Leroy, qui dirige le CIRMF, le Centre international de recherche médicale de Franceville. Ses recherches et ses découvertes sur les arbovirus, comme Ebola, la dengue ou le chikungunya, l'ont forcé lui aussi à revisiter sa définition, sa conception du vivant. On l'écoute.
Je ne pense pas qu'on peut réduire le concept de la vie à une définition. C'est un concept, hein. Donc par définition, c'est plus conceptuel que réducteur, hein, à deux ou trois mots. Pour exemple, c'est que le virus n'a jamais été considéré comme un être vivant, au sens premier qu'on a donné à la vie. Mais en fait, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que ce sont également des êtres vivants. Un être vivant, en fait, c'est un être qui est capable de se répliquer. Alors maintenant, il y a juste la notion d'autonomie, ou alors un être qui a besoin d'un autre être vivant. Parce que le virus ne peut pas se répliquer tout seul. Donc se répliquer, c'est-à-dire aboutir à la formation de descendants. Il ne peut pas seul, il est obligé de le faire aux dépens d'un être vivant. Mais à ce titre-là, on a des parasites, qui sont des végétaux, le gui par exemple, ou même des animaux, qui ne peuvent pas vivre aussi seuls, qui sont des parasites et qui sont eux des êtres vivants. Donc voilà, la question est vraiment compliquée. Je pense que c'est plus un débat d'idées qu'un débat de sémantique, et que... au lieu de réduire le vivant à une définition, on peut essayer de mettre différentes strates du vivant. Et le virus appartiendrait donc à une certaine strate qui possède certaines caractéristiques des autres êtres vivants et qui ne possède pas d'autres caractéristiques. Le débat avance, hein, un débat ça ne fait qu'avancer, et doit aboutir à mon avis à une redéfinition, même au niveau du dictionnaire, de l'académie, hein, du langage académique, du monde de vivant. Et encore un autre exemple, ce sont les prions. Les prions qui sont responsables de maladies, ce sont des petites séquences protéiques. Est-ce qu'on les classe dans le monde du vivant ou pas? Là, c'est pareil, on pousse encore plus loin. Là, il n'y a pas de génome, alors que le virus, il a un génome. Il a de l'ADN ou de l'ARN. Donc, il y a du matériel génomique. La protéine, non. Mais, il provoque des maladies, il se transmet, etc., etc. Donc, bon, plein de notions entre pouvoir de réplication autonome ou pas, présence ou non de matériel génétique, capacité de faire un métabolisme, donc de créer de l'énergie. Tout ça, ce sont des caractéristiques qui rentraient dans la définition, donc si je peux dire, ancestrale du monde de vivant, mais qui doivent être mis en cause pour essayer de cerner de manière beaucoup plus précise les contours du vivant.
Vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Éric Leroy, Thomas?
Non, c'était passionnant, parce qu'en plus, c'est très représentatif de la difficulté qu'on a. On sent, hein, dans cet extrait que, voilà, on a besoin de caractériser l'objet vivant, enfin le monde sur lequel on travaille. C'est important quand même.
Vous êtes biologiste.
On est biologiste, on nous fait confiance pour ça, j'ai envie de dire. Et pourtant, on dit que c'est à la fois pas un problème de sémantique, et puis que quand même, il va falloir qu'on change la définition du dictionnaire, donc c'est aussi un problème de mots. Donc on voit bien, en fait, il y a une tension, et je suis entièrement d'accord avec la proposition des strates qui l'avance.
Oui, des différentes strates, voilà, de vie, vous êtes dans les infravies.
C'est quelque chose qui me
parle. Et puis c'est vrai aussi que vous êtes généticien également, et qu'on a à un moment cru que ça y est, on avait réglé le problème, que là où il y avait de l'ADN et du génome, c'était le vivant. Or, ça ne suffit pas, on est bien plus que... Enfin, le vivant, c'est plus que
ça
l'ADN.
Ça ne suffit absolument pas, d'abord parce qu'il y a des bouts d'ADN qui se baladent de manière libre dans la nature ou dans les organismes, et on ne les considérera pas comme des formes de vie particulières, c'est juste des molécules. Il faut quand même à un moment garder un peu de mesure, mais même si elles peuvent avoir un impact énorme, mais ça reste des molécules, et si on se met à dire que toute molécule est vivante, là, pour le coup, on perd complètement le sens de la définition.
Mais vous allez même encore plus loin, Thomas, parce que c'est dès la préface, vous dites, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser la question, plutôt qu'est-ce que la vie? Est-ce que la vie existe?
Alors, c'est ma définition, c'est ma proposition, évidemment, elle est provocatrice. Est-ce que la vie existe? On a tous l'intuition que la vie existe, mais par contre, le point sur lequel je mets l'accent dans le livre, c'est qu'à mon sens, elle n'existe pas en tant que catégorie. C'est pas un club, la vie, c'est pas un club, c'est pas un groupe d'individus qu'on pourrait ranger dans un sac.
Les vivants et les autres.
Voilà. C'est pas un club, c'est vraiment un état limite, l'intensification de ce que je racontais tout à l'heure, hein, de cette mise en mouvement adaptatif de la matière, qui se manifeste d'une certaine manière avec des degrés différents.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de borne, mais il y a quand même un moment où c'est vivant ou c'est pas vivant.
Et ben, c'est compliqué, parce que en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, c'est la bactérie qui est en couverture, en couverture du livre.
Elle est jolie, hein, elle est rose.
Rose fluo, c'est une fluorescence de laboratoire. C'est une bactérie qui a incroyablement peu de gènes, elle a moins de 200 gènes, alors que quand on l'a découverte, on pensait qu'il en fallait beaucoup plus pour pouvoir être considéré comme vivant. Bon. Et cette bactérie, elle ressemble, pour les biologistes, elle ressemble à d'autres structures qu'on a à l'intérieur de nos cellules, qui s'appellent des mitochondries, qui sont très vraisemblablement des anciennes bactéries que nos cellules ont domestiquées, plutôt que de les découper en rondelles et de les manger entièrement. Donc, on a une sorte de continuum où on peut avoir beaucoup de gènes, très peu de gènes, voire quasiment pas, parce que ces mitochondries, elles peuvent même produire des descendants qui ont zéro gène. Et donc, on a vraiment un continuum sous nos yeux. C'est ça qui a été une des surprises de l'enquête à la fois naturaliste et épistémologique que j'ai menée. C'est que ce que le monde nous donne à voir, c'est un incroyable continuum entre des formes qui ont énormément de gènes et des formes qui n'en ont pas du tout. Donc même quand on reste sur le strict plan de la génétique, et Dieu sait si ça ne suffit pas pour faire du vivant, c'est un généticien qui le dit, même quand on reste sur cet axe de la génétique, eh ben, la vérité c'est qu'on a un énorme continuum. Il faut même savoir
continuum que... Continuum entre vivant, non-vivant,
des structures qui ont zéro gène,
presque vivant.
Voilà, exactement. Et donc du coup, quand on a ça sous les yeux, on se dit, est-ce que c'est très raisonnable de vouloir absolument placer une frontière? Est-ce que ça a un sens en tant que scientifique? Alors, entendons-nous bien.
Parce qu'en tant que scientifique, on a quand même vous avez tendance à mettre les choses dans des catégories, à les classer, à les simplifier pour les comprendre.
En tout cas, il faut y réfléchir. Oui, pour les simplifier, oui. Pour les comprendre, c'est autre chose. Pour simplifier les choses, si on fait des catégories transitoires dont on sait qu'elles ont elles-mêmes des limites, si j'ose dire.
Pas figées. Au fond, voilà. Il ne faut pas figer les frontières du vivant.
On peut comprendre, c'est normal de classifier, de dégrossir en classifiant. Mais si la classification devient un tel poids qu'on pense qu'il faut faire rentrer au chausse-pied des structures dans les catégories qu'on a faites, là ça devient un problème. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Donc je pense que si on a quelque chose qui sous nos yeux est continu, il faut l'accepter comme quelque chose de continu, et ça nous place face à des défis énormes, parce que comme vous dites très bien, les scientifiques ont l'habitude de penser par catégorie, et puis par ailleurs la société a besoin aussi de temps en temps de catégories. Juridiquement, on a besoin de savoir quand on protège la biodiversité par exemple,
ce qui est vivant, est-ce qu'il n'est pas
les vivants, on protège pas autre chose, et donc c'est légitime de vouloir de temps en temps tracer c'est des frontières pour des raisons sociales. Quand on fait des lois de bioéthique, on protège un certain type de vivant, les humains en l'occurrence, par rapport à plus que d'autres êtres vivants.
En ouvrant la fenêtre, vous nous posez de sacrées questions,
voilà,
et de sacrés problèmes.
Exactement, ça finit par poser de grandes questions, et ça peut être aussi des problèmes. Il faut faire attention, parce que dire qu'il n'y a pas de frontières, comme je le défends, c'est très intéressant. Je pense que c'est potentiellement intéressant sur le plan scientifique, mais après, socialement, il faut faire attention aux implications que ça peut avoir, évidemment, parce que à la fois ça peut être une remise en cause, à mon avis, salutaire, de par exemple de la marchandisation du vivant qui veut absolument breveter des formes de vie. Bon, bah, dans ces cas-là, il suffit de rappeler que la vie, elle est jamais figée, pour remettre en cause, même sur le plan scientifique, cette brevetabilité. Donc ça, une thèse comme les infravies peut y contribuer. Mais quand on dit que le vivant n'a pas de frontières, on peut aussi donner l'impression que, puisque tout est flou, ben on n'est pas obligé de protéger toute la biodiversité, ou on ne serait pas obligé de protéger tous les humains avec des lois de bioéthique. Et ça, c'est surtout pas ce que je veux dire dans ce livre, évidemment.
Pour en savoir plus, chers amis auditeurs, nous avons un exemplaire de ce livre, donc Infravie, le vivant sans frontières, de Thomas Eames, avec cette bactérie fluorescente en couverture. Pour vous, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question jusqu'où va le vivant, réponse de Björk tout de suite sur RFI avec Virus.
Autour de la question.
virus. Vous en auriez voulu encore un peu des virus de Björk, Thomas Himes, sur RFI. Pardon. Non, non, pas de souci. Autour de la question jusqu'où va la vie, autour de cette immense question donc ouverte par vous, Thomas Himes, vous êtes chercheur et grand empêcheur de penser en rond. Dans cet essai percutant dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, il s'intitule Infravie, le vivant sans frontières, et il bouscule toutes nos certitudes et toutes nos catégories, nous incitant, là je vous cite, Thomas Himes, à garder les yeux ouverts sur les surprises du vivant, comme nous le rappelait aussi ici même, dans ce studio, le généticien Patrick Gaudret du CNRS, ancien membre du comité consultatif d'éthique et membre du Haut Conseil des biotechnologies.
C'est absolument fascinant parce qu'on découvre effectivement que les catégories qu'on a instituées au cours du temps pour essayer de mieux comprendre le vivant et son organisation sont des catégories qui sont elles-mêmes évolutives. En fait, on ne sait pas trop où positionner un certain nombre de choses. Alors effectivement, il y a des virus qui se comportent presque comme des bactéries. Il y a des tas de choses. On a l'impression qu'il y a des mélanges alors qu'il y a simplement un continuum du vivant avec une compréhension assez partielle. On ne connaît, je pense, que quelque chose comme un dixième des espèces vivantes qui existent sur Terre. Donc il n'est pas surprenant que les découvertes nouvelles nous fassent nous poser des questions.
Nous fasse nous poser les bonnes questions et presque tout remettre en question, Thomas Himes.
Oui, bah effectivement, je suis entièrement d'accord. Le terme de continuum, je le reprends bien volontiers parce que.
Donc c'est plus pertinent, la frontière entre le vivant et le non-vivant n'est plus pertinente, c'est le continuum.
À mon avis, sur le plan purement de la description scientifique, moi ma thèse c'est qu'il n'est pas que le concept de frontière ne tient pas et même nous empêche de voir l'originalité du vivant dans, par exemple, sa capacité à s'hybrider en permanence, sa capacité à se transformer, sa capacité à être en permanence dans la modification tout en restant soi-même, nous-mêmes par exemple, à la différence de machines, notre matière se transforme en permanence. Hein. On est le produit de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, avec évidemment des vitesses plus ou moins grandes dans différentes parties de notre corps, mais notre corps est renouvelé matériellement parlant, et pourtant on a l'impression d'être
toujours
d'avoir la même apparence, et même au plus profond de nous-mêmes, on a l'impression d'avoir les mêmes souvenirs, les mêmes pensées, les mêmes goûts. Or, finalement, tout ça reposant sur des bases matérielles, c'est assez vertigineux de se dire que ça repose sur des bases qui sont renouvelées régulièrement.
Si on voit nos vies comme effectivement un continuum, il n'y a pas de limite, même si on fête nos anniversaires, mais je veux dire, comme un continuum, finalement, la vie et le vivant, c'est un peu la même chose.
C'est l'extension de ça à toute l'histoire de la vie, parce qu'on a notre expérience personnelle, mais elle se déploie dans la lignée dans laquelle, dont on est issu et puis qu'on peut prolonger. Oui.
Je ne sais pas si vous vous doutiez en commençant cette enquête sur les infravies et le vivant sans frontières, que c'était véritablement une enquête, j'ai envie de dire, philosophique, métaphysique. Vous posez aussi la question des origines. D'où vient la vie? Et là encore, les réponses que l'on donne normalement ne vous satisfont pas.
Il faut préciser qu'il y a beaucoup d'éminents spécialistes des origines de la vie et qui travaillent sur ces questions. Je ne suis pas moi-même un spécialiste de ces questions. La situation des recherches sur les origines de la vie, c'est qu'on est face à quelque chose qui est tout simple, c'est qu'on ne pourra jamais avoir la réponse précise sur la manière dont la vie est apparue sur Terre. On est condamné, et tous les spécialistes le savent évidemment, à faire des scénarios dont on va débattre de la plausibilité. Mais ces scénarios ont très souvent la forme d'un récit qui finalement convient bien à notre manière de voir le vivant que je critique, cette vision d'une complexification progressive. On aurait eu d'abord la première petite molécule un peu différente des autres qui aurait été capable de se reproduire, pour reprendre le guide qu'on a eu tout à l'heure, puis elle se serait mise dans une vésicule qui se serait complexifiée, qui se serait devenue une cellule, et puis par toute une série comme ça d'étapes un peu miraculeuses, on serait arrivé à la première cellule qui là aurait pu être canoniquement décrétée comme vivante, et là serait apparue l'étincelle de la vie. Hein. C'est un peu le récit standard
Plus complexe.
Voilà. Alors, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de miracle dans le récit standard, que chacune de ces étapes que je viens d'écrire, on peut imaginer qu'elle est le produit d'un phénomène de sélection naturelle. Il n'y a rien de miraculeux à ça, mais néanmoins, il y a cette marche comme ça, un peu prométhéenne, vers ce qu'on est nous. Hein. Donc, Or, quand on regarde les récits, enfin les différents scénarios qui sont proposés par les spécialistes des origines du vivant, on s'aperçoit qu'il y en a certains qui proposent des versions un peu alternatives, qui vont par exemple beaucoup insister sur la dimension collective de l'apparition du vivant. En fait, la vie, c'est quoi ? Si c'est une première cellule, c'est un collectif de molécules. Et ce collectif de molécules, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la dynamique par laquelle il s'est formé, il s'est organisé.
On en revient au côté collectif, voilà, dynamique, vraiment.
Et donc, si on accepte par exemple que la vie, comme on dit souvent, c'est quelque chose entre en partie de la reproduction, du métabolisme et puis de l'évolution, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des petits systèmes moléculaires qui auraient développé des capacités de se reproduire dans leur coin, des systèmes moléculaires qui auraient développé des capacités de faire un métabolisme dans leur coin, puis qui se seraient rencontrés pour fusionner et faire quelque chose de vivant.
Et faire le vivant qu'on
connaît.
Mais
de sorte que, en fait, le vivant, il préexistait un peu déjà dans ses premiers petits réacteurs préliminaires.
Donc là encore, pas de barrière, pas de frontière figée.
Si on accepte que la vie n'est pas une catégorie, on peut admettre qu'elle n'existe pas en tant que catégorie, et on peut aussi admettre, en plaisantant un petit peu, qu'elle n'est jamais apparue, puisqu'elle préexistait déjà sous des formes préliminaires auparavant.
Je ne sais pas jusqu'où vous allez nous entraîner justement autour de la question jusqu'où va la vie. Je vous propose tout de même, Thomas Himes, d'écouter la définition la plus originale et plus étonnante, à part la vôtre, qui m'a été donnée d'entendre. C'est celle du chercheur en informatique et mathématicien Gilles de Weck. Accrochez-vous, c'est inattendu, inouï et assez génial. Vous me direz ce que vous en pensez.
Pour nous, les informaticiens, quand nous regardons des êtres vivants, il y a trois choses qui nous surprennent quand nous les comparons aux objets que nous savons fabriquer. C'est que nos ordinateurs sont rectangulaires, sont parallélépipédiques, alors que les êtres vivants sont souvent beaucoup plus ronds. Les ordinateurs sont solides, ils sont durs, alors que les êtres vivants sont mous, ce qui les rend plus difficiles à casser d'ailleurs, ce qui les rend plus résistants. Et puis, une troisième différence, c'est que nos ordinateurs sont secs, alors que les êtres vivants sont humides, ils sont remplis d'eau. Et je me pose la question, est-ce que ce caractère rond, mou et humide définit le vivant ? Est-ce qu'il est caractéristique du vivant ? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer des objets vivants qui ne vérifieraient pas, qui ne satisferaient pas ses propriétés.
Avant d'écouter votre réponse, Thomas Himes, d'abord votre réaction à cette définition incroyable du vivant, je la rappelle, rond, mou et humide.
J'aime beaucoup cette définition en fait, parce que elle peut paraître très naïve, mais en fait elle nous renvoie à quelque chose d'intuitif. Manière qu'on a de tout de suite sentir que quelque chose est vivant autour de nous. Si vous vous baladez dans un endroit très désertique et que d'un seul coup vous vous mettez à voir quelque chose d'un peu mou, comme de la mousse sur un caillou, vous dites alors je vais arriver dans un endroit où il y a de la vie, quoi. Et donc il y a quelque chose d'intuitif qui est tout à fait fondé dans ce que dit
Gilles de Weck. Et dans sa question, alors est-ce que dans les infravies, alors, ça respecterait aussi
alors ces règles? C'est compliqué, parce que si vraiment on en reste à cette définition, bah quelque chose de rond, mou et humide, ça pourrait être une goutte d'eau. Bon, on ne va pas dire qu'une goutte d'eau, par exemple, en tant que telle, est vraiment vivante, parce qu'elle ne manifeste pas de caractère adaptatif, par exemple. Mais ceci étant, ça pose très très bien la question de notre rapport intuitif au vivant. Et aussi, par exemple, moi, quand on parle de quelque chose de rond, mou et humide, moi ça m'évoque une cellule. Et par exemple, j'ai envie de... Enfin, la question, est-ce qu'on pourrait imaginer des formes de vie ailleurs, pas forcément sur Terre, encore qu'on n'a pas exploré toutes les profondeurs de la Terre. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aurait pas des surprises en creusant très très profond, mais sans spéculer plus loin que ça, dans l'immensité de l'univers, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des formes de vie qui soient moins molles, moins rondes, moins dures? Et il n'y a aucune raison de se l'interdire, parce que on pourrait, sur Terre, la vie repose sur du carbone, sur de l'eau, sur de l'ADN. Tout ça, c'est des molécules et des entités qui ont des propriétés physico-chimiques particulières. On pourrait imaginer que sur d'autres terres, sur d'autres planètes, d'autres combinaisons de molécules et de structures puissent se mettre en mouvement de manière adaptative, sans être forcément aussi molle ou aussi dure ou aussi ronde.
Alors là, c'était un informaticien qui nous donnait cette définition-là. Et justement, on en revient, parce qu'une des thèses aussi de votre essai, c'est précisément que les machines, c'est pas du vivant. Les machines, elles sont carrées, il nous l'a dit, elles sont dures et elles sont sèches. Donc, on parle beaucoup de neurones artificiels, on parle beaucoup de vie artificielle en ce moment, mais vous vous dites, là, c'est pas la même chose. Là, on est dans un autre monde.
À mon avis, on est dans un autre monde. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire faire des parallèles ou dans une certaine mesure faire des comparaisons. Mais en fait, la comparaison du vivant à des machines, on l'a évoqué juste rapidement tout à l'heure, remonte à Descartes. Et elle a traversé les siècles pour toujours prendre la forme de la machine la plus moderne du moment. Bon. Et aujourd'hui, on est un peu dans le règne du vivant ordinateur. Donc on est, les organismes ont des codes, ont des programmes, on utilise tout le lexique des sciences informatiques et des ordinateurs
appliqués,
en particulier.
Des ordinateurs appliqués au vivant.
Alors, on a eu, avant c'était les usines, maintenant on parle des ordinateurs, et il y a toute une série de métaphores qui se sont succédées dans l'histoire de la biologie. Et or, quand on fait ça, on réduit le vivant à ce qu'il a de comparable à un certain type de machine, mais on ne regarde pas, par exemple, tout ce qui échappe dans cette comparaison. Et typiquement, on le disait tout à l'heure, quand on regarde que les cellules fonctionnent de manière très très désordonnée, beaucoup plus désordonnée que ce qu'on imaginait, eh ben en fait, on s'aperçoit qu'elles fonctionnent exactement pas comme fonctionne un petit ordinateur. Elles fonctionnent en tâtonnant, elles fonctionnent en essayant plein de trucs, et puis il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a quelques essais qui marchent. Elles fonctionnent, voilà. Et ça, c'est exactement pas ce que fait un ordinateur. Et donc, les ordinateurs, les machines de manière générale, ce sont des entités qui sont créées par l'homme pour faire des tâches répétable. C'est une idée que les hommes ont et qu'ils essayent, et ils suent sang et eau pour faire des machines qui font quelque chose de répétable. Mais c'est pas quelque chose de naturel, c'est, par définition, c'est artificiel. Si on peut définir l'artificiel d'une certaine manière, ce sont les machines faites par les hommes. Et c'est quelque chose qui va contre la nature de la biologie, qui n'est pas de fonctionner de cette manière-là.
Ce qui veut dire aussi qu'en nous ouvrant aux vivants sans frontières, vous nous enlevez certaines peurs qu'on a autour du vivant machine. Parce qu'effectivement, c'est pas ça le problème, ou c'est peut-être pas ça la question qu'il faut se poser. Oui. Par contre, ça ouvre d'autres questions, ça on l'a dit. Et ça ouvre d'autres questions aussi pour en laboratoire, quand on parle de biologie de synthèse, quand on veut fabriquer du vivant. On va venir tout à l'heure sur la recherche du vivant ailleurs, mais quand on veut en fabriquer, il faut déjà savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut fabriquer.
Donc, exactement, mes éminents collègues qui font de la biologie de synthèse essayent d'ailleurs souvent, les plus fondamentaux d'entre eux, qui font des recherches absolument passionnantes, essayent par exemple souvent de rejouer ce scénario des origines que je décrivais tout à l'heure. Ils essayent de fabriquer une petite molécule avec des capacités d'autoreproduction qui va se mettre dans une vésicule et puis qui s'autonomiserait un petit peu. Mais ça, c'est une manière, et je leur fais aucun reproche parce que je ne saurais pas comment faire autrement, mais c'est une manière de fabriquer des structures performantes. Or, le vivant n'est pas que de la performance. Et parfois, il tire sa performance du collectif et pas seulement de ce que fait chacune des entités. C'est vrai pour des cellules, ça peut être vrai pour des fourmis dans une fourmilière. Donc, cette idée de fabriquer des petites structures très efficaces, qu'elles soient moléculaires ou qu'elles soient presque cellulaires, c'est souvent l'implicite qu'on fait quand on essaie de créer de la vie en laboratoire. Et à mon avis, c'est un vrai présupposé épistémologique. Et puis, il faut constater un truc, c'est que ça fait une vingtaine d'années qu'on essaie de faire ça en laboratoire et que pour l'instant, on n'y est pas arrivé. On séquence des génomes entiers, on fait des transformations génétiques incroyables, mais mettre une petite molécule autoréplicatrice dans une vésicule et en faire une nouvelle souche de vie, on n'y est à ce jour pas arrivé, alors que c'est des gens vraiment brillants qui essayent.
Parce qu'on a oublié le collectif, l'interdépendance, peut-être parce que c'est pas possible.
Alors, peut-être qu'on y arrivera demain, là il faut toujours faire attention quand on dit quelque chose comme ça. Je pourrais manger mon chapeau demain si jamais quelqu'un y parvient, c'est pas du tout impossible. Mais ma proposition, c'est que si on n'y parvient pas, c'est peut-être parce qu'on passe à côté de dimensions qui sont pas celles de la performance et qu'on a déjà évoqué, cette fragilité par exemple. C'est difficile de demander à un chercheur de faire quelque chose de fragile et qui pourtant se maintient. Et pourtant, quand on regarde une cellule, c'est exactement ça. Elle se répare en permanence. Si elle était que solide et figée, elle tiendrait pas très très longtemps, elle s'abîmerait.
La vie est fragile, c'est joli de nous le rappeler. Elle est pas dans la performance, c'est joli aussi.
Pas seulement, ouais,
pas
exactement.
Seulement dans la performance. Ouais. On va partir bientôt sur la piste d'autres formes de vie, fragiles peut-être, extraterrestres. En s'arrêtant d'abord en chemin sur une liste infinie d'infravies possibles, Infinite List, morceau assez secouant lui aussi, interprété par Melville Van Peebles, réalisateur et compositeur afro-américain culte, père de la Black Exploitation, que vous avez choisi d'écouter. Sur RFI, Thomas Himes, extrait de l'album de Melville Van Peebles, The Last Transmission.
A few months later, or maybe it was a million years, another spaceship stealing that old water searching rut shows up. Friends and me go up to the surface to pay a friendly visit. But we must have looked more like some kind of storm coming, and the spaceship crew had a fit. They threw on the afterburners and split.
autour de la question.
Somewhere out there, you got silicone girls. Somewhere else, you got ammonia, base, whatever. Life is just a matter of how many tosses of the dice you get. Get it? Just a matter of density, gravity, DNA, temperature, luck, etc., etc., etc. You got a whole infinite list, whole lot of whatever.
Infinite list dans l'étrange univers de Melville Van Peebles sur RFI. Pourquoi ce choix, Thomas Hinz?
Bon, Melville Van Peebles, bon, par ailleurs, c'est un activiste génial, comme vous l'avez dit, l'inventeur de la Blaxploitation, qui s'est battu toute sa vie pour bousculer les frontières raciales, par exemple. Donc, il a contesté, lui, beaucoup de frontières et d'inégalités dans ses créations artistiques. Et dans ce disque, peut-être c'est pas étonnant, finalement, il s'interroge sur les frontières de la vie, comme beaucoup d'artistes. Et lui, il va la chercher ailleurs dans les étoiles. Et dans l'extrait qu'on a entendu, il imagine une forme de vie qui serait pas à base d'ADN ou pas à base de carbone, mais à base de silice, pareil, de silicium, par exemple. Il utilise le terme. Il est bien informé parce que dans les perspectives que peuvent avoir certains chercheurs qui s'intéressent à la vie ailleurs, ils imaginent que le carbone n'est pas une fatalité, qu'on pourrait le remplacer par du silicium, par exemple. Donc c'est un artiste génial et redoutablement informé.
Autour de la question jusqu'où va la vie, donc ce vivant sans frontières, chanté par Melville Van Peebles, et dont vous parlez dans votre ouvrage, Thomas Hinz, où va la vie ici, sur Terre, mais vous l'avez dit aussi ailleurs dans l'espace, quelles formes de vie ou d'infravie, peut-être extraterrestres, sont possibles? C'est justement toute la question, comme nous le rappelait le géoastrophysicien de l'IRD, David Baratou.
Aujourd'hui, effectivement, de nombreuses missions spatiales sont dédiées à la recherche de la vie dans le système solaire, notamment à la surface de la planète Mars. Il y a une mission européenne qui va partir, ExoMars, qui va essayer de trouver des traces de vie. La grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit chercher, effectivement. On sait que la vie a existé il y a 3,8 milliards d'années, est apparue, mais c'est pas si évident de montrer. Donc voilà, comment montrer qu'il y a eu de la vie sur Mars s'il y en a eu?
Comment le montrer qu'il y a eu de la vie et que doit-on chercher comme autre forme de vie extraterrestre? La question est d'importance.
D'où la nécessité quand même de parvenir à une caractérisation originale et donc une définition du vivant. Et la question est remarquablement bien posée par cet extrait. C'est-à-dire, si on envoie un appareil renifleur sur Mars, est-ce qu'il doit renifler des cellules qui pourraient être faites de n'importe quoi, ou alors est-ce qu'il doit renifler de l'ADN, ou est-ce qu'il doit renifler des protéines?
De l'eau, par exemple.
Est-ce que l'eau est une condition nécessaire, c'est probable, suffisante, c'est débattu. Voilà, il y a beaucoup de débats autour de ça. Et bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque encore une vie qui ressemblerait presque à la nôtre.
Imaginer de chercher complètement
mais
autre
dans
chose.
L'espace infini, c'est ce que j'ai. Ça, c'était une de mes surprises du livre, parce que je suis biologiste, je suis pas astrophysicien. Et du coup, je me suis aperçu que des auteurs proposaient qu'on puisse imaginer des formes de vie, et des auteurs sérieux, pas de la science-fiction, même si la science-fiction peut aussi nous aider. Des auteurs très sérieux, des cosmologistes, pouvaient imaginer que dans un univers beaucoup plus vieux que le nôtre, si on avait un peu de patience, un univers qui aurait plusieurs centaines de milliards d'années, on pourrait imaginer, pourquoi pas, de la vie à l'échelle galactique, c'est-à-dire des galaxies qui pourraient rentrer en contact les unes avec les autres, développer des formes de métabolisme, d'écosystèmes l'une entre elles.
Les galaxies elles-mêmes seraient
vivantes. Galaxies entre elles qui pourraient pourrait développer des formes de complexité qui finiraient par devenir quelque chose comme une vie galactique. Alors ça paraît complètement incroyable de dire ça. De même, on pourrait l'imaginer à des échelles incroyablement petites. On pourrait balayer tout un spectre d'échelles entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ça paraît fou, mais dans l'univers infini et dans le temps infini, l'imagination peut être un atout parce qu'évidemment, ça bouscule nos habitudes et puis nos petites limites conceptuelles. Et il n'y a aucune raison de s'interdire de penser que des phénomènes adaptatifs ne puissent pas avoir lieu à des échelles radicalement différentes.
Bon, c'est vertigineux.
C'est vertigineux. Hein, c'est carrément vertigineux. Il est vrai qu'il faut d'abord commencer à aller voir sur Mars si on arrive à trouver quelque chose, bien sûr.
Oui, et puis déjà sur Terre, on peut commencer. Et puis ailleurs aussi, effectivement.
Et à faire attention à ne pas le faire disparaître sur Terre.
Exactement, parce que vous consacrez les derniers chapitres à une nouvelle éthique, finalement, du vivant et des infravies. Parce que toutes ces réflexions, l'imagination, ce côté vertigineux, on n'est peut-être pas du tout seul dans l'univers, mais il y a peut-être des formes de vie bien plus compliquées que les petits bonshommes verts.
Exactement. Hein,
mais tout ça, ça ne nous enlève rien. Ça nous rajoute de l'imaginaire, mais il faut aussi qu'on soit conscient de ce que ça implique pour nous.
Oui,
aussi.
Je pense qu'il y a une dimension, il y a des conséquences éthiques à cette proposition épistémologique, si on veut dire. Les conséquences éthiques, si on admet que le vivant est un continuum, si on admet qu'il est fait d'hybridité, si on admet qu'il est fait de fragilité, par exemple, bah, typiquement, ça remet en cause assez radicalement, même si c'est pas le premier argument pour le faire, parce que d'autres existent, mais ça remet en cause, par exemple, l'appropriation du vivant, la marchandisation, la commercialisation du vivant, parce qu'évidemment, ça repose, par exemple, sur la brevetabilité des gènes, cette marchandisation du vivant. Or, les gènes, ils n'ont pas le même effet quand ils sont dans une certaine type, dans une cellule et dans une autre. Donc, on découpe le vivant en petits morceaux, en petits modules, en petites briques, qui correspondent tout à fait au modèle du vivant machine. Et pourtant, on en devient propriétaire, et pourtant, on ne devient pas propriétaire éventuellement des conséquences désastreuses que ces petites briques peuvent avoir. On veut être propriétaire seulement des avantages qu'on peut en retirer. Et donc, il y a une éthique qui se dégage d'une vision des choses sans frontières, qui est évidemment de remettre en cause la parcellisation et l'appropriation et la privatisation du vivant.
Ça donne envie, en tout cas, une vie sans frontières. Hein. Merci infiniment, Thomas Hymes, d'être venu en direct ouvrir ce débat autour de la vie, de toutes les formes du vivant. Je rappelle le titre donc de cet essai vraiment original et percutant, Infravie, le vivant sans frontières, dont je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook Avis aux amateurs.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation. Merci Nico. Et Caroline Fillette en coulisses. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à toutes les vies possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de votre journal.